Chapitre 8. Avec ses apparences de demeure féodale, le château de Boiscoran n'était en réalité qu'un pied-à-terre de garçon, pied-à-terre passablement négligé même. Des 80 ou 100 pièces qu'ils y trouvaient, c'est tout au plus si 8 ou 10 étaient meublées, et encore de la façon la plus rudimentaire. Un salon, une salle à manger, quelques chambres d'amis, c'était tout autant qu'il en fallait pour les séjours de M. de Boiscoran. Lui-même occupait au premier étage un tout petit appartement dont la porte ouvrait sur le palier du grand escalier. Lorsqu'ils arrivèrent devant cette porte, guidés par le vieil Antoine, le juge d'instruction, le procureur de la République et le greffier Méchinet, « Frappez !» commanda M. Galpin d'Aveline au valet de chambre. Le bonhomme obéit et, tout aussitôt, de l'intérieur, « Qui est là ?» cria une voix jeune et forte. « C'est moi, monsieur, répondit le fidèle serviteur. Je voudrais... »« Va-t'en au diable !» interrompit la voix. « Cependant, monsieur... »« Laisse-moi dormir, bourreau. Je n'ai pu fermer l'œil qu'au jour. » Impatienté, le juge d'instruction écarta le domestique et, saisissant la poignée de la porte, il essaya de l'ouvrir. Elle était fermée en dedans. Mais il eut vite pris un parti. « C'est moi, monsieur de Boiscoran, prononça-t-il. Ouvrez !»« Eh, c'est ce cher d'Aveline !» fit joyeusement la voix. « Il faut que je vous parle. »« Et je suis à vous, magistrat très illustre, le temps de voiler d'un inexpressible pantalon, mes formes apolloniennes, et j'apparais. » Presque aussitôt, en effet, la porte s'ouvrit, et monsieur de Boiscoran se montra, les cheveux ébouriffés, les yeux encore chargés de sommeil, mais rayonnants de jeunesse et de santé, la lèvre souriante et la main largement tendue. « Par ma foi, disait-il, c'est une fameuse inspiration que vous avez eue là, mon cher d'Aveline, de venir me demander à déjeuner. » Et, saluant monsieur d'Aubigeon, « Sans compter, ajouta-t-il, que je ne saurais trop vous remercier d'avoir décidé à vous accompagner notre cher procureur de la République. C'est une vraie descente de justice. » Mais il s'arrêta, glacé par l'expression du visage de M. d'Aubigeon, stupéfait de voir M. Galpin d'Aveline se reculer au lieu de prendre et de serrer la main qu'il lui tendait. « Ah ça, qu'est-ce qui arrive, mon cher ami ?» Jamais le juge d'instruction n'avait été si roide. « Il nous faut oublier nos relations, monsieur, prononça-t-il. Ce n'est pas l'ami qui se présente chez vous aujourd'hui, c'est le juge. » Monsieur de Boiscoran semblait confondu, mais nulle ombre d'inquiétude n'assombrissait sa franche et loyale physionomie. « Je veux être pendu, commença-t-il, si je comprends. » « Entrons, fit monsieur d'Aveline. Ils entrèrent et, au moment de passer la porte, « Monsieur, murmura Méchinet à l'oreille de M. d'Aubigeon, cet homme est certainement innocent. Jamais un coupable ne nous eût accueillis ainsi. »« Silence, monsieur, dit sévèrement le procureur de la République, qui, cependant, était un peu de l'avis du greffier. Silence !» Et, grave et attristé, il alla se placer dans l'embrasure d'une fenêtre. M. Galpin d'Aveline, lui, était debout au milieu de la chambre et il s'efforçait d'en embrasser et d'en fixer dans son esprit jusqu'au moindre détail. Le désordre de cette chambre disait avec quelle précipitation M. de Boiscoran avait dû se coucher la veille. Ses effets, ses bottes, sa chemise, son gilet, sa jaquette et son chapeau de paille étaient jetés au hasard sur les meubles et à terre. Il avait sur lui ce pantalon gris clair, reconnu et désigné successivement par Coqueleu, par Ribaud, par Gautry et par la femme Courtois. « Maintenant, monsieur, commença monsieur de Boiscoran, avec cette nuance de mécontentement d'un homme qui se demande si on ne se moque pas de lui, m'expliquerez-vous, puisque vous n'êtes plus mon ami, ce qui me vaut l'honneur matinal de votre visite ?» Pas un muscle de la figure de M. Galpin d'Aveline ne bougea. Et, comme si la question se fût adressée à tout autre qu'à lui, « Veuillez, monsieur, me montrer vos mains, » dit-il froidement. Une vive rougeur colora les joues de M. de Boiscoran et une perplexité singulière se lut dans ses yeux. « Si c'est une plaisanterie, » dit-il, « elle a peut-être trop duré. » Il allait s'emporter, c'était évident. M. d'Aubigeon crut devoir intervenir. « Malheureusement, monsieur, prononça-t-il, jamais situation ne fut plus grave. Faites ce que vous demande monsieur le juge d'instruction. » De plus en plus surpris, M. de Boiscoran promenait autour de lui un rapide regard. Dans le cadre de la porte, Antoine, le vieux valet de chambre, se tenait debout, l'angoisse peinte sur le front. Près de la cheminée, le greffier Méchinet avait avisé une table et il s'y était installé avec son papier, ses plumes et son écritoire de corne. Alors, avec un mouvement d'épaule qui annonçait que, décidément, il renonçait à comprendre, M. de Boiscoran montra ses mains. Elles étaient parfaitement blanches et nettes. Les ongles, assez longs, étaient soigneusement nettoyés. « Quand vous êtes-vous lavé les mains pour la dernière fois ?» demanda M. Galpin d'Aveline après un minutieux examen. À cette question, le visage de M. de Boiscoran s'éclaira et, éclatant de rire, « Par ma foi, s'écria-t-il, j'avoue que j'ai été pris. J'allais m'emporter. J'ai eu presque peur. »« Et vous aviez raison d'avoir peur, monsieur, » prononça M. Galpin d'Aveline, « car une accusation terrible pèse sur vous. » Et de votre réponse à la question que je vous pose et qui vous semble ridicule, dépendent peut-être votre honneur et votre liberté. Ah, il n'y avait plus cette fois à s'y méprendre. Monsieur de Boiscoran se sentit saisi de cet effroi que la justice inspire aux plus honnêtes, aux plus sûrs d'eux-mêmes. Il pâlit et d'une voix troublée, « Quoi, dit-il, une accusation pèse sur moi, et c'est vous, monsieur Galpin d'Aveline, qui vous présentez chez moi pour m'interroger ?» « Je suis magistrat, monsieur. »« Mais vous étiez aussi mon ami. Si quelqu'un devant moi se fût permis de vous accuser d'un crime, d'une lâcheté, d'une infamie, je vous aurais défendu, monsieur, et de toute mon énergie, sans hésitation, sans arrière-pensée. Je vous aurais défendu jusqu'à ce qu'on m'eût fourni des preuves éclatantes, irrécusables, matérielles, de votre culpabilité. Et si, à la fin, il m'eût été démontré que vous étiez coupable, je vous aurais plaint et je ne m'en serais pas moins rappelé qu'à un certain moment, je vous avais assez estimé pour vous faciliter une alliance qui eût fait de vous mon parent. Tandis que vous, on m'accuse, je ne sais de quoi, faussement évidemment, et tout de suite, vous ajoutez foi à l'accusation absurde et vous acceptez d'être mon juge. Eh bien, soit, je me suis lavé les mains hier soir en rentrant. » C'est avec raison que M. Galpin d'Aveline avait vanté son sang-froid et sa puissance sur soi. Il ne sourcilla pas cette rude apostrophe et, toujours du même ton, « Qu'est devenu l'eau dont vous vous êtes servi » demanda-t-il. « Elle doit encore être là, dans mon cabinet de toilette. » Le juge d'instruction est couru. Sur la table de marbre était une cuvette de porcelaine pleine d'eau. Cette eau était noire et sale. Au fond, on voyait distinctement des résidus de charbon. À la surface, mêlés à de la mousse de savon, surnageaient quelques fragments d'une extrême ténuité, mais cependant appréciables, de papier brûlé. Avec des précautions infinies, le juge d'instruction apporta lui-même la cuvette sur la table où écrivait Méchinet et, la montrant à M. de Boiscoran, « Est-ce bien là, interrogea-t-il, l'eau dans laquelle vous vous êtes lavé les mains en rentrant ?» D'un ton d'insouciance dédaigneuse, « Oui, répondit M. de Boiscoran. Vous aviez donc manié du charbon, touché des matières enflammées ? Vous le voyez bien. » Placés presque en face l'un de l'autre, le procureur de la République et le greffier Méchinet échangèrent un rapide coup d'œil. Ils avaient, en même temps, ressenti la même impression. Si M. de Boiscoran n'était pas innocent, c'était à coup sûr un homme d'une audace et d'une énergie extraordinaire et qui obéissait à quelques plans longuement médités, car ses réponses, comme autant d'aveux, semblaient le livrer pieds et poings liés à la prévention. Le juge d'instruction lui-même parut frappé de stupeur, mais ce ne fut qu'un éclair et, se retournant vers son greffier, « Écrivez !» lui commanda-t-il. Et il lui dicta le procès-verbal de cette scène, exactement, minutieusement, se reprenant même parfois pour arriver à l'expression juste et châtiller son style. Ayant terminé, « Reprenons, monsieur, dit-il à monsieur de Boiscoran, vous avez passé dehors la soirée d'hier. » « Oui, monsieur. » « Sorti à 8 heures, vous n'êtes rentré qu'à minuit. » « Après minuit. » « Vous aviez emporté votre fusil. » « Oui. » « Où est-il ? » D'un geste insouciant, M. de Boiscourant le montra dans l'angle de la cheminée et dit « Le voilà. » Vivement, M. Galpin d'Aveline s'en empara. C'était une arme de luxe à double canon, d'un travail et d'un fini exceptionnel. Sur les incrustations de la crosse se lisait le nom du fabricant, Kleb. Quand avez-vous fait feu avec ce fusil pour la dernière fois, monsieur ? Interrogea le juge d'instruction. Il y a 4 ou 5 jours. À quelle occasion ? Pour tuer des lapins qui ravagent mes bois. Avec toute l'attention dont il était capable, M. Galpin d'Aveline examinait et faisait jouer la batterie de cette arme, dont le mécanisme avait une certaine analogie avec le système Remington. Bientôt, il ouvrit le tonnerre et constata que le fusil était chargé. Dans chacun des canons se trouvait une cartouche à enveloppe de plomb. Cela fait, il remit l'arme à sa place et, tirant de sa poche l'enveloppe métallique trouvée par Pitard, il la présenta à M. de Boiscourant en demandant « Reconnaissez-vous ceci ?»« Parfaitement, répondit M. de Boiscourant, c'est l'enveloppe d'une de mes cartouches que j'aurais jetée après l'avoir brûlée. Croyez-vous donc être le seul dans le pays à avoir une arme de ce système ?»« Je ne le crois pas, j'en suis sûr. » De telle sorte qu'une enveloppe de cartouches Kleb, celle-ci par exemple, trouvée dans un endroit quelconque, attesterait nécessairement votre présence ? Nécessairement, non. J'ai vu plus d'une fois des enfants ramasser les enveloppes que je venais de jeter et jouer avec. Tout en faisant voler sa plume sur le papier, le greffier méchiné se permettait certaines grimaces des plus significatives. Il était trop au fait des allures d'une instruction criminelle pour ne pas se rendre compte de la tactique de M. Galpin d'Aveline, tactique horriblement dangereuse et perfide, qui consiste à tourner le prévenu avant de l'attaquer sérieusement. « Il joue serré, » murmura-t-il en se penchant vers M. d'Aubigeon. Le juge d'instruction s'était assis. « Ceci posé, » reprit-il, « je vous prie, monsieur, de vouloir bien me donner l'emploi de votre soirée de 8 heures à minuit. Ne vous pressez pas, réfléchissez, prenez votre temps, votre réponse aura certainement une influence décisive. » M. de Boiscourant, jusqu'à ce moment, était demeuré calme, mais de ce calme inquiétant qui décèle de terribles tempêtes intérieures, difficilement contenues. Les avertissements du juge, et plus encore le ton dont ils étaient donnés, le révoltèrent comme la plus odieuse des hypocrisies, et, cessant de se contenir, les yeux pleins d'éclairs, « Enfin, monsieur, s'écria-t-il, que voulez-vous de moi ? De quoi m'accuse-t-on ? » M. Galpin d'Aveline ne broncha pas. « Vous le saurez, monsieur, quand le moment sera venu, » répondit-il. « Commencez par me répondre, et, croyez-moi, dans votre intérêt, répondez franchement. Qu'avez-vous fait hier soir ?»« Eh, le sais-je, je me suis promené. » »« Ce n'est pas une réponse. » »« C'est cependant la vérité. J'étais sorti sans but, j'ai marché au hasard. » »« Votre fusil sur l'épaule. » »« J'emporte toujours mon fusil, mon valet de chambre vous le dira. » N'avez-vous pas traversé les marais de la Seille ? Non. Le juge d'instruction hocha gravement la tête. Vous ne me dites pas la vérité, monsieur, fit-il. Monsieur ! Vos bottes que j'aperçois là, sur votre descente de lit, vous donnent le démenti le plus formel. D'où vient la boue dont elles sont couvertes ? Les prairies, autour de Boiscourant, sont très humides. N'insistez pas, vous avez été vu. « Cependant, vous avez été rencontré par le fils Ribaud au moment où vous passiez le désertoir des étangs. » M. de Boiscourant ne répondit pas. « Où alliez-vous ? » demanda le juge. Pour la première fois, une inquiétude réelle contracta les traits de M. de Boiscourant, l'inquiétude d'un homme qui voit tout à coup s'ouvrir sous ses pas un précipice qu'il ne soupçonnait pas. Il hésita et, comprenant que nier était inutile, « J'allais à Bréchy, » répondit-il. « Chez qui ? » ?»« Chez le marchand de bois à qui j'ai vendu mes coupes de 1870. Ne l'ayant pas trouvé, je suis revenu par la grande route. » D'un geste, M. Galpin d'Aveline l'arrêta. « C'est faux, prononça-t-il durement. Oh ! Vous n'êtes pas allé à Bréchy. Permettez ! Et la preuve, c'est que vers 11 heures, vous traversez d'un pas hâtif les bois de Roche-Pommier. Moi ? Vous-même, et ne dites pas non, car tenez, votre pantalon est encore tout hérissé des épines des ajoncs que vous avez traversées. Il y a des ajoncs ailleurs que dans les bois de Roche-Pommier. C'est vrai, mais on vous y a vu. Qui ? Gaudry, le braconnier. Et il vous a si bien vu qu'il a pu nous dire votre humeur. Vous étiez troublé et fort en colère, vous parliez haut, vous juriez, vous arrachiez les feuilles aux branches d'arbres. Tout en parlant, le juge d'instruction s'était levé et avait pris sur un fauteuil la jaquette de monsieur de Boiscourant. Il en fouilla les poches et en retira une poignée de feuilles flétries. « Et tenez, voilà une preuve de la véracité de Gaudry. »« Il y a des feuilles d'arbres partout, » murmura monsieur de Boiscourant. « Oui, mais une femme, maîtresse Courtois, vous a vu sortir du bois de Roche-Pommier. » Vous l'avez aidé à replacer sur son âne un sac qu'elle ne pouvait soulever seule. Le niez-vous ? Non, vous avez raison, car ici, tenez, sur la manche et sur un des pans de votre jaquette, j'aperçois de la poussière blanche qui certainement est de la farine. Monsieur de Boiscourant baissait la tête. Avouez donc, insista le juge d'instruction, que hier au soir, entre 10 et 11 heures, vous étiez au Valpinçon. Jamais, monsieur, cela n'est pas. C'est cependant au Valpinçon, près des ruines de l'ancien château, qu'a été ramassée cette enveloppe de cartouches Kleb que je viens de vous montrer. Eh, monsieur, interrompit monsieur de Boiscourant, ne vous ai-je pas dit que 20 fois j'ai vu des enfants ramasser pour jouer de ces enveloppes métalliques? Et, essayant de réagir, si j'étais allé au Valpinçon, ajouta-t-il, quel intérêt aurais-je à le nier? M. Galpin d'Aveline se redressa et, de sa voix la plus solennelle, « Je vais vous le dire, prononça-t-il. Hier soir, entre 10 et 11 heures, le feu a été mis au Valpinçon, dont il ne reste plus que des cendres. Oh ! Hier au soir, on a tiré 2 coups de fusil sur le comte de Claudieuse. Grand Dieu ! Et la justice pense, la justice a de fortes raisons de croire que l'incendiaire, que l'assassin, c'est vous, Jacques de Boiscourant. »